Vous avez une question sur le logement, l'Adil 48 y répond sur 48 FM.
Adil 48,
l'agence départementale d'information sur le logement.
Alors la question, en a-t-il le droit ?
Effectivement, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, nous sommes là, vous pouvez nous contacter par courrier, par mail ou passer à l'agence, c'est encore le mieux.
Ce n'est que le logement, mais tout le logement.
Tout de suite, la minute de l'Adil.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chronique La Minute de l'Adil sur 48FM où chaque semaine une juriste de l'agence départementale d'information sur le logement répond à l'une de vos questions sur le thème du logement et de l'habitat, location, copropriété, travaux, recherche d'un logement, impayé de loyer, accession à la propriété et bien d'autres, des thèmes nombreux et variés. D'ailleurs vous aussi vous pouvez poser une question en adressant un mail à contact.adil48@orange.fr. Aujourd'hui, c'est une question sur la signature d'un acte de vente et c'est Aurélie Poligala, juriste à la DIL de la Lozère, qui vous répond. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors la question, j'ai signé le 2 septembre dernier un compromis de vente pour l'achat d'une maison. Le paragraphe réalisation précise que la date prévue pour la signature de l'acte authentique est le 13 décembre ou au plus tard le 10 janvier. À ce jour, le vendeur occupe encore le bien, l'agent immobilier et le notaire demandent de retarder la date de signature. Mes questions sont, est-ce que la date du 10 janvier n'est pas une date ? Et quels sont mes recours pour faire respecter cette date ? Alors oui, c'est bien une date, Aurélie.
C'est bien une date, je pense que vous voulez dire une date butoir, une date obligatoire, quelque chose comme ça.
Voilà.
oui, effectivement. Alors, la vente d'un immeuble, elle est caractérisée, on va dire, par par deux actes qu'il faut réaliser, qui sont différents. La première, c'est ce qu'on appelle la conclusion d'un avant-contrat. Donc l'avant-contrat ici, c'est le compromis de vente. Ça peut être une promesse de vente, ça peut être une promesse d'achat, mais là, c'est donc un compromis, d'après ce que nous dit l'auditeur. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, il va falloir signer le contrat de vente. C'est lui vraiment qui va faire le transfert de propriété entre le vendeur et l'acheteur. Pour autant, le compromis de vente, il va vraiment déjà engager les parties parce que finalement, dans cet acte, le vendeur, il s'engage à vendre, l'acheteur s'engage à acheter et on vient déjà fixer toutes les grandes conditions de cette vente. C'est-à-dire dans quel délai, effectivement, il faut que ça se produise, à quel prix, sous quelles conditions, etc. etc. Et ensuite, dans un délai imparti, donc qui est en règle générale prévu par l'acte lui-même, c'est-à-dire comme là, il nous dit, au plus tard, le 10 janvier, on vient réitérer l'acte, c'est-à-dire faire la signature de l'acte authentique et donc le transfert définitif de propriété avec le paiement du prix en totalité. Et à ce moment-là, au moment de la signature de l'acte authentique, la défaillance de l'une des parties, elle pourrait être sanctionnée en règle générale conformément à ce que prévoit donc le compromis lui-même. C'est-à-dire que souvent, le compromis, comme c'est déjà un contrat finalement, il va prévoir qu'est-ce qui se passe si l'une des parties ne se présente pas à la signature de l'acte authentique définitif. Donc soit l'acte il peut nous dire qu'à défaut de signature dans les délais impartis, les parties seront libres de tout engagement. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'absence de signature au terme du 10 janvier, en l'occurrence, ça emporte la caducité du contrat, c'est-à-dire on annule tout, on remet les parties dans l'état initial, l'acheteur se voit rembourser ce qu'il avait déjà versé, et puis les parties sont libres de repartir chacune de leur côté. Soit le compromis, il prévoit rien de particulier à ce sujet, c'est-à-dire que c'est un peu le flou, on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir, et à ce moment-là, on va appliquer des principe de droit classique, c'est-à-dire que la partie la plus diligente va pouvoir, par une mise en demeure, demander à l'autre partie de remplir son obligation, c'est-à-dire au vendeur de vendre ou à l'acheteur d'acheter. Si on est dans cette situation-là, en fait, on s'en remet à des décisions de jurisprudence qui considèrent que finalement, la date de signature butoir qui est prévu dans le compromis, c'est-à-dire là, si je reprends l'exemple de notre auditeur, c'était le 10 janvier, je crois, cette date-là, elle constitue pas une fin en soi, finalement, mais un point de départ à partir duquel l'une des deux parties va pouvoir contraindre l'autre à s'exécuter. Ou alors, si elle a changé d'avis, à saisir le juge, par exemple, pour demander ce qu'on appelle la résolution du contrat, et puis le versement éventuel de dommages et intérêts, parce qu'il y a eu un préjudice, on s'était engagé sur quelque chose qui finalement tombe à l'eau. En tout cas, ces actions, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu aussi récemment, alors la semaine dernière, je crois que c'était une émission sur les aides financières, on avait beaucoup de changements sur les aides financières. On a aussi beaucoup de changements sur les règles de procédure civile. Et donc désormais, ce qu'il faut retenir, c'est que ces procédures-là, si notre auditeur veut saisir le tribunal pour pouvoir voir sa vente enclenchée, il faudra saisir désormais le tribunal judiciaire. Non plus le tribunal de grande instance, c'est le tribunal judiciaire. Voilà, ça a été renommé. Et ce, forcément, à défaut d'un accord amiable. C'est-à-dire que je ne conseille pas à notre auditeur de partir bille en tête, saisir le juge. Il faut d'abord tenter une négociation à l'amiable, essayer d'obtenir un peu l'appui du notaire en ce sens, faire une lettre recommandée à l'acquéreur, etc., etc. Dernière chose, un petit conseil à notre auditeur, qu'il vérifie dans son compromis si il n'y a pas une clause pénale. Parce que effectivement, souvent, quand on a une clause dans le compromis qui prévoit ce qui va se passer si on ne signe pas à la bonne date, eh ben, c'est aussi assorti de sanctions financières. C'est ce qu'on appelle une clause pénale. Et en gros, la partie qui est un petit peu en retard pour venir s'exécuter, elle va devoir verser des pénalités financières à l'autre partie qui est obligée d'attendre. Donc là, en l'occurrence, notre auditeur, il faut qu'il relise bien son compromis parce que peut-être qu'il peut non seulement mettre en demeure l'autre partie de venir signer au plus tôt, mais en plus de lui verser peut-être, je dis n'importe quoi, 10 euros par exemple par jour de retard par rapport à la date de signature. Donc bon conseil, parce qu'effectivement un compromis c'est peut-être pas évident à relire tout seul, à comprendre tous les termes juridiques, qu'il nous appelle, qu'il prenne un rendez-vous, qu'il vienne avec son compromis, et puis on décortiquera tout ça ensemble, et éventuellement on l'accompagnera dans la rédaction d'un courrier, voilà.
Oui, c'est le plus simple. Comment prendre contact avec la DIL ?
Alors, par téléphone, 04 66 49 36 65. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Par mail sur la boîte contact.adil48@orange.fr ou en passant directement au bureau au 12 bis avenue Foch, à Mende.
Ou dans l'une de vos permanences.
L'une de nos permanences, de préférence sur rendez-vous. Donc, contactez-nous d'abord avant de passer en permanence à Langogne, Florac, Saint-Chély, Marvejols, dans le désordre.
Merci Aurélie.
À bientôt.